Ils sont quatre, unis comme les doigts de la main, et pourtant si différents. Achille, 17 ans, est l'aîné. Puis il y a Jules, 11 ans, Arthur, 10 ans, et Mathilde, 5 ans. Leur mère, Suzanne, est une grande amoureuse, et résultat, chacun de ses enfants a un père différent. Les pères, parlons-en. Quand ils sont encore dans les parages, ils n'assurent pas vraiment avec leur progéniture. Mais Suzanne est une gentille, trop gentille. Les hommes n'ont cessé de lui faire des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Suzanne est fragile, instable, dépressive, et ses enfants ne peuvent pas vraiment compter sur leur mère adorée, qui pourtant les aime énormément. L'aîné, Achille, a le sens des responsabilités, et heureusement qu'il est là pour assurer le quotidien quand sa mère est au fond de son lit. Ils ont aussi des moments, tous ensemble, de pur bonheur dans le pavillon de Saint-Denis, là où ils vivent. Un jour, l'amour que Suzanne voue à ses enfants ne suffit plus. Elle n'est plus là et les enfants décident de se débrouiller seuls, de cacher sa disparition pour ne pas être séparés. Il est inenvisageable que Mathilde aille vivre chez son père qui est violent et qu'Arthur se retrouve en famille d'accueil. Complices, solidaires, ils vont apprendre à mentir aux adultes et le sens de la débrouille, cela fait bien longtemps qu'ils en sont pourvus. Ismaël, le dernier fiancé de leur mère, un jeune homme à fleur de peau, que les enfants aiment bien même s'il n'a pas toujours été fiable, sera leur complice, lui qui jure, après avoir failli, de prendre soin des enfants, quels que soient les risques encourus. Une aventure aux multiples péripéties, tout à la fois dramatique et romanesque, les attend. Les attentats de 2015 auront notamment un impact direct sur leur existence. « Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir », écrit la romancière Sandrine Cohen. Oui, mais le prix à payer est parfois terrible. Bonjour Sandrine Cohen et bienvenue à Secrets d'écriture, où je vous reçois donc pour votre roman « Tant qu'il y a de l'amour » qui vient tout juste de paraître aux éditions J'ai lu. Parlez-nous pour commencer des enfants de Suzanne, tous très attachants et très différents les uns des autres.
Bonjour Cécile, tout d'abord merci de me recevoir et merci de ce résumé parce que c'est le vôtre et il m'a beaucoup touchée, j'ai eu la chair de poule, donc merci infiniment. Les enfants de Suzanne, que dire? Alors Achille, c'est le plus grand, celui qui a 17 ans, celui qui fait un petit peu office de mère finalement auprès des trois autres. Jules, c'est celui qui cache tout le désespoir du monde derrière une ironie, une drôlerie, peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui une hyperactivité. Il a toujours mille idées et il va tourner en dérision tout ce qui lui arrive, on s'apercevra un petit peu pour survivre. Arthur, qui a 10 ans, qui est juste après Jules qui en a 11, Arthur est un enfant hypersensible. En tout cas, je l'ai voulu comme ça, sans doute HPI, encore une fois, pour reprendre des mots qui sont à la mode, mais je n'ai pas écrit, je n'ai pas rencontré ces enfants avec ces mots-là, mais en tout cas, ce sont des mots qui me viennent à l'esprit parce qu'aujourd'hui, on a une vision sur le développement de l'enfant qui est singulière et que, pour le coup, j'approuve. Donc voilà, donc Arthur, il est toujours en train de penser à mille choses, dans des peurs d'abandon terribles, dans une hypersensibilité au monde, ce qui induit évidemment des souffrances. Et puis, il y a Mathilde. Alors Mathilde, elle a 5 ans, elle est l'enfant chéri de tous, elle est la petite sœur, la dernière, elle est, je dis qu'elle est à la fois une mousquetaire, parce qu'ils sont les trois mousquetaires à 4, et leur milady. Voilà, Mathilde, c'est un rayon de soleil, Mathilde c'est la pureté, Mathilde c'est l'amour. Peut-être, je me suis dit, c'est l'enfant intérieur de Suzanne, c'est l'enfant qu'on n'aimerait pas abîmer, en tout cas. Voilà.
Oui, d'ailleurs, sa mère, Suzanne, a peur que sa fille lui ressemble trop.
Absolument.
Quelle mère est Suzanne?
C'est difficile d'en parler. J'ai eu quelques retours de lecteurs qui, puisqu'effectivement Suzanne disparaît à un moment donné, comme vous l'avez si bien dit, je trouve ça très beau, l'amour ne suffit plus. Enfin, plus exactement, en ce qui concerne Suzanne, s'il n'y a plus d'amour, alors ça ne vaut plus la peine de vivre. Et à un moment donné, elle est en déshérence d'amour, elle n'a plus les ressources. Et certains lecteurs ont été extrêmement troublés de ça, puisque c'est une mère qui abandonne, avec des guillemets, ses quatre enfants. Pour autant, moi, je vois Suzanne comme une mère qui fait ce qu'elle peut, qui fait de son mieux, qui aime profondément ses enfants, mais qui est rattrapée par une maladie qu'on appelle la dépression. Et c'est une maladie. Plus le poids de la famille monoparentale, dont on ne parle pas toujours et peut-être pas assez, la charge mentale de ça, en plus de la dépression.
Dans votre premier roman intitulé « Rosine, une criminelle ordinaire », Rosine Delceau tue ses deux enfants. Les mères défaillantes sont un sujet qui vous tient à cœur, non ?
Alors, c'est-à-dire que vu comme ça, malgré moi, voilà, le sujet des mères défaillantes, ou plus largement le sujet de la maternité, je crois, est un sujet qui me tient énormément à cœur, un peu malgré moi. Et en même temps, pour vous donner peut-être pas un secret d'écriture, quoique, puisqu'on écrit avec notre histoire, je crois, en tout cas moi j'écris avec mon histoire, j'ai adopté ma petite fille. J'ai une petite fille que j'ai adoptée. Et donc la maternité a été une quête pour moi. Des moments de souffrance, des moments d'intense joie, puisque ma fille a aligné ma vie réellement, ou en tout cas ma vie s'est alignée avec son arrivée. Et certainement, donc, la maternité est un sujet de fond me concernant.
C'est beau ce que vous dites, elle a aligné ma vie. C'est très beau. Alors, j'ai dit que les pères n'avaient pas le beau rôle dans votre livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Oui, c'est vrai. Je ne pourrais pas dire le contraire.
Alors, vous égratignez aussi un peu la justice pour enfants, il me semble, moi, dans une scène que je ne vais pas dévoiler, mais où, en effet, les juges manquent d'empathie quand même, en tout cas, l'une des juges, dans une scène qui est assez, je trouve, assez terrible.
Oui, disons manque d'humanité. Alors, vous avez parfaitement raison, merci de m'avoir lu aussi bien. C'est un des sujets qui m'interpelle, qui me guide, qui me meut. Dans mon premier roman, Rosine, une criminelle ordinaire, il est question de la justice. Et ce qui irrigue ce premier roman, c'est une phrase que l'héroïne dit en permanence, c'est « juger, c'est comprendre ». Et effectivement, j'ai le sentiment que la justice est trop souvent soumise, comme notre société d'ailleurs, à des process, à des règles, à des lois intangibles. Alors, c'est important qu'il y ait la loi, bien entendu. En revanche, je crois que dans notre société, et encore plus dans la justice, qui est normalement le miroir de notre société, il serait bon qu'il y ait des lieux d'humanité. Ce que j'appelle les lieux d'humanité, c'est des lieux de singularité, de particularité, des exceptions. Parce que l'être humain, les histoires humaines, finalement, à mon sens, ne sont faites que d'exceptions. Donc vous avez raison.
C'était important pour vous, à travers cette histoire, de parler des attentats de 2015 ?
Oui, c'est même la genèse de ce livre. C'est-à-dire, la première chose, j'ai été très, comme je pense la plupart d'entre nous, bouleversée par les attentats de novembre 2015. Il y avait eu Charlie Hebdo en janvier 2015. Et il y avait les attentats en novembre 2015. Moi, j'avais des amis au Bataclan. J'ai été bouleversée de ça. Et en même temps, je pense que ça a fait écho en moi à quelque chose que j'appelle les attentats personnels. Hein, c'est-à-dire, soudain, la mort peut advenir. Voilà, c'est ça un attentat. L'attentat de 2015, à grande échelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en plein concert et soudain, on va mourir. Et ça vient de nulle part. Et je pense que j'ai très vite eu envie de parler de ça dans un lien à un sujet qui me touche beaucoup, qui est l'enfance maltraitée. Ou en souffrance, je mets des millions de guillemets aussi parce qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans. Et qui vivent, eux, des attentats chez eux. Extrêmement régulièrement. Et donc, j'ai très vite eu envie d'écrire autour de ça. Et je ne sais pas pourquoi. Alors là, vraiment, au sortir d'un rêve, je savais qu'il s'agirait de quatre enfants, dont une petite Mathilde, et qu'il rencontrerait une grande Mathilde. Je ne dis rien de plus.
Un personnage intervient dans la deuxième partie de « Tant qu'il y a de l'amour ». Elle s'appelle Mathilde. comme la petite, mais c'est, cette fois-ci, en effet, c'est la grande Mathilde, et elle aura un rôle prépondérant dans le destin des enfants de Suzanne. Pouvez-vous nous la décrire ?
Mathilde a perdu sa fille lors des attentats de Paris, au Bataclan. Elle a donc vécu le pire. Et Mathilde, c'est quelqu'un qui, pour de multiples raisons, arrive, essaye de survivre, d'une part, mais surtout de vivre avec ça. C'est-à-dire, quel est le chemin que notre esprit, notre corps peut prendre après un drame pareil pour, si ce n'est trouver un sens, continuer à vivre, ce qui veut dire pour moi aimer vivre, faire confiance à la vie. Et c'est pour ça qu'elle peut rencontrer la petite Mathilde et les enfants.
Oui. Et le fait aussi qu'elle n'ait plus rien à perdre lui donne, un courage inouï.
Absolument.
Vous êtes également, Sandrine Cohen, réalisatrice et scénariste.
Oui.
Avez-vous pensé au film ou à la série que pourrait donner Tant qu'il y a de l'amour lorsque vous écriviez, ou après ?
Alors oui. Oui, d'autant plus que Tant qu'il y a de l'amour, initialement... Moi, j'avais écrit un synopsis de film. Je pense film. Et d'ailleurs, mon prochain roman, qui s'appelle Antoine et qui est une toute nouvelle histoire, je l'ai écrite selon le même procédé que les deux premiers. C'est-à-dire, j'écris comme un synopsis ou un grand séquencier. Je pars des personnages et j'écris ce que j'appelle, moi, un événementiel, ce qui est un séquencier, en fait, hein, en termes d'écriture de film. C'est-à-dire, les grands mouvements avec les grandes scènes. Et je pense scène quand j'écris. Et ensuite, je pars donc de ces 30, 40 pages, ça dépend, pour développer mon écriture littéraire. Mais donc, ces 30 ou 40 pages pourraient très bien être développées en écriture scénaristique. Donc oui, Tant qu'il y a de l'amour, initialement, c'était une idée de film que j'ai développée en roman. Et... je ne sais pas, je croise les doigts, mais actuellement, une productrice, en tout cas, je suis en discussion avec une productrice pour peut-être l'adapter. Ce serait une série télévisuelle en 4 épisodes.
Très bien. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour Tant qu'il y a de l'amour ? On peut dire qu'il y a eu la maternité, ça vous en avez parlé.
Oui,
les attentats aussi.
Mes sources d'inspiration.
Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Oui, alors mes sources d'inspiration, c'est... la maternité, absolument, les attentats, ce qu'on appelle la résilience, même si je mets pareil des guillemets parce que je me méfie des mots trop utilisés, mais en tout cas, l'aptitude, la capacité à l'être humain à survivre au pire et à se, peut-être même à faire du bien ou du beau avec ce pire-là. C'est le cas de Mathilde, mais c'est le cas aussi des enfants. La justice... la nécessité de l'exception de la justice, par exemple, le juge, la figure positive, en tout cas du juge dans mon livre, est inspirée en partie, puisque je ne le connais pas, du juge Marchand, qui est un juge des enfants qui existe. Il y a eu un documentaire dessus et je crois qu'il a présidé une commission concernant notamment les abus sexuels faits aux enfants, qui est un juge que je trouve extraordinaire. Et puis alors les personnages, à la fois il y en a qui viennent et qui sont, j'allais dire, totalement imaginaires, même si ça me dérange un peu parce que je sais comme si je les connaissais, donc je les trouve très très incarnés moi. Et puis il y en a d'autres qui sont inspirés, je pense à, il y a un homme de l'abri, enfin de la brigade antiterroriste, hein, qui m'a été inspiré par un homme qui effectivement fait partie des services intérieurs et que j'ai rencontré deux fois dans ma vie. Donc voilà, il y a un peu de tout, puis des choses de mon histoire, et puis voilà.
On n'a pas parlé d'Ismaël, qui est le dernier fiancé de Suzanne.
Oui.
Alors lui, qui vous a inspiré, Ismaël ? Qui est un jeune homme qui est plus jeune que Suzanne, un jeune homme assez, un peu paumé aussi, on peut dire,
ouais.
Mais au grand cœur.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'Ismaël ?
Bah, Ismaël, il vient vraiment de mon imagination. Je pense qu'Ismaël représente l'ambivalence. C'est-à-dire, moi je crois beaucoup que tous les êtres humains, et je crois au pouvoir de la littérature là-dessus, en tout cas c'est ce que j'ai envie de raconter, c'est que l'être humain est ambivalent. Il n'y a pas les cow-boys et les indiens, il n'y a pas blanc et noir, il n'y a pas gentil, méchant. Ça, c'est la dichotomie du monde, c'est quelque chose qu'on met en place pour, peut-être pour se rassurer. Moi, je crois à l'ambivalence, profondément. C'est-à-dire que Suzanne n'est pas ni une mauvaise mère, ni une mère parfaite, non. Voilà, Suzanne est une femme ambivalente, avec ses failles, avec ses blessures et avec sa capacité d'amour aussi. Et elle fait ce qu'elle peut. Et Ismaël, c'est vraiment pour moi le personnage symbolique de l'ambivalence, c'est-à-dire celui qui est la cause, peut-être, du dernier chagrin de Suzanne, donc d'un attentat personnel, si je fais le lien. C'est peut-être celui qui a participé aux attentats, à quelle mesure, on ne sait pas. C'est donc quelqu'un qui est profondément en colère, c'est quelqu'un qui a envie peut-être de faire souffrir autant qu'il souffre. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est capable d'aimer, qui est capable de changer, qui est capable de prendre en charge les enfants dans une promesse et dans une rédemption personnelle. Jusqu'à quel prix vous en avez parlé, et ça je ne révélerai rien, mais il en paye le prix.
Tout à fait. Merci Sandrine Cohen. Vous voulez bien nous lire un extrait de Tant qu'il y a de l'amour ?
Avec plaisir. Je vais lire le début.
D'accord.
Il est 18h dans un pavillon de Saint-Denis. Un joli pavillon. Un brin désuet et vétuste, mais sympa, avec son bazar de vie ambiant et les restes des générations passées superposés en couches de papier peint. Suzanne a hérité ce pavillon de sa mère. Et sa mère de sa mère avant elle. C'est comme ça dans la famille. On se transmet le pavillon et le mal-être de mère en fille. Le mal-être ? Suzanne ne dirait pas ça. Et les gens qui la connaissent, même de loin non plus. Suzanne est un bonbon. Suzanne est la vie. Quand elle rit, et elle rit souvent, c'est comme si le ciel s'ouvrait. Suzanne éclabousse ceux qui la côtoient de sa joie à nul autre pareil. Pourtant, souvent, Suzanne s'absente. Elle disparaît au fond d'un trou, celui de sa cachette, tout à l'intérieur d'elle. Tout à l'intérieur de Suzanne, il y a comme une boîte noire dont elle n'a pas la clé, mais qui contient toutes ses souffrances passées, et les souffrances de sa mère, et celles de sa mère avant elle. Mais ça, Suzanne ne le sait pas. Dans ces cas-là, Suzanne, comme les autres, pense qu'elle est fatiguée, ou qu'elle a un chagrin d'amour. Suzanne a souvent des chagrins d'amour. Elle est une grande amoureuse. Elle aime beaucoup, passionnément, éperdument. Et chaque fois qu'elle aime, elle fait un enfant. Elle a 35 ans, presque 36, et elle a 4 enfants. Achille, Jules, Arthur et Mathilde, de 4 pères différents. Pour l'heure, Suzanne tire sur sa cigarette, avachie sur le canapé, devant la télévision allumée sur les catastrophes du monde. Elle s'en fout. Elle ne la regarde pas vraiment. Elle est retirée à l'intérieur d'elle, pas loin de cette boîte noire qui raconte un crash bien plus grave pour elle que celui du monde, le sien, même si elle ne s'en souvient pas. Machinalement, Suzanne écrase sa cigarette dans le cendrier rempli de mégots et en rallume une. Lovée contre elle, Mathilde, 5 ans, suce son pouce, absorbée, elle, par les catastrophes du monde.
Nous allons passer au questionnaire secret d'écriture, Sandrine Cohen. Alors, votre mot préféré ?
Authenticité.
Celui que vous détestez ?
Chialer, et depuis toute petite.
Votre endroit préféré au monde ?
Ma fille.
Votre dernière lecture ?
Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont.
Votre prochaine lecture ?
Mon manuscrit en cours.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire ?
Alors vraiment, n'importe lesquels. J'écris dès que je peux, quand je peux. Je peux écrire 1 heure, 6 heures, 8 heures d'affilée.
Pourquoi écrivez-vous ?
Ah, je crois vraiment pour transmettre ma vision du monde, la partager. Et peut-être, si un seul lecteur me dit « Oh, ça a changé quelque chose chez moi. »
Où écrivez-vous ?
Alors, très précisément, sur mon canapé côté droit, avec les jambes allongées sur ma table basse et mon ordinateur sur les genoux.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez, et si oui, laquelle ?
Non, je n'écoute pas de musique quand j'écris. Ça m'est arrivé une fois sur un manuscrit très très singulier, qui n'est pas de la fiction. En revanche, la musique a une importance capitale. Pour moi, pour mes personnages, je sais toujours ce qu'ils écoutent comme musique. Et dans Tant qu'il y a de l'amour, il y a même une bande originale.
C'est vrai, absolument. Je n'en ai pas parlé, mais il y a une bande originale. Luttez-vous contre la page blanche, et si oui, comment ?
Non, pas du tout. J'ai une grande chance.
Contre quoi vous défendez-vous ?
Je me défends contre les idées reçues, les procédures, le manichéisme et la pensée unique. Mais si je le dis à l'endroit, je défends la complexité, l'ambivalence et l'humanité en chacun de nous.
Merci beaucoup Sandrine Cohen d'être venue à Secrets d'écriture et merci aux éditions J'ai lu. Je rappelle le titre de votre roman, Tant qu'il y a de l'amour.
Merci.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À bientôt.